Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h, monsieur et dame, bonjour et bienvenue à la matinale du studio Tamani. 2500 casques bleus supplémentaires pour la mission des Nations Unies au Mali. La décision a été prise hier dans la nouvelle résolution du Conseil de sécurité qui proroge le mandat de la MINUSMA. Elle a été adoptée à l'unanimité par les 15 pays membres. Pour certains observateurs, ce nouveau mandat ne s'exprime pas clairement sur la lutte contre le terrorisme. Selon eux, le problème de la MINUSMA n'est pas un manque d'effectifs, mais de mandats à aller au contact des groupes terroristes. Le mouvement patriotique pour le Mali exige l'organisation de la conférence d'entente nationale prévue dans l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation. Il l'a fait savoir au cours d'une conférence d'échange avec des représentants de la société civile sur le suivi de la mise en œuvre de l'accord. Lutte contre l'extrémisme violent au Mali. La question est au centre d'une rencontre nationale qui a débuté avant-hier à Bamako. Elle regroupe des leaders religieux, des représentants d'organisations de la société civile, les autorités politiques et administratives. À la présentation, Mariam Maïga. Mais avant cette nouvelle, un convoi de l'armée malienne a été pris pour cible par des hommes armés non identifiés dans la localité de Tintelout, à quelques kilomètres de la ville de Tombouctou. On dénombre au moins 3 morts du côté des soldats maliens et une dizaine de blessés. Les assaillants ont également emporté 2 véhicules. Je vous le disais dans le titre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son quitus pour l'envoi de 2500 casques bleus supplémentaires au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU. Cette décision a été prise avec le renouvellement du mandat de la mission de l'ONU au Mali voté ce mercredi. Proposé par la France et adopté à l'unanimité des 15 pays membres, la nouvelle résolution proroge ainsi d'un an le mandat de la MINUSMA. Compte rendu, Issafa Kabasisoko.
C'était l'une des principales les recommandations du secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon a présenté il y a quelques jours son rapport sur la situation au Mali et a demandé l'envoi de 2500 soldats supplémentaires, dont 500 policiers. En adoptant cette recommandation, l'effectif des casques bleus passe désormais à 13 000 hommes. Ils devront faire face aux nombreuses attaques terroristes dont les casques bleus sont la cible. Au cours des 12 derniers mois, 27 soldats de la MINUSMA ont été tués dans différentes attaques, faisant 112 blessés. Sur les 16 missions de la mission de l'ONU à travers le monde, celle du Mali est la plus coûteuse en perte en vies humaines. La nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies prolonge donc le mandat de la MINUSMA. Le texte demande aux parties signataires de l'accord d'Alger d'accélérer le processus. Le Conseil de sécurité menace des sanctions ciblées contre les fauteurs de troubles qui ne respecteraient pas l'accord et qui s'attaqueraient à la MINUSMA. Ces sanctions peuvent aller du gel des avoirs aux interdictions de voyage. Pour le ministre des Affaires étrangères du Mali, le texte adopté intègre les attentes du gouvernement malien. Ablaye Diop a réaffirmé l'engagement de Bamako à tout mettre en œuvre pour une application diligente et intégrale de l'accord pour la paix et la réconciliation.
Certains observateurs regrettent que ce nouveau mandat ne s'exprime pas clairement sur la lutte contre le terrorisme. Selon eux, le problème de la MINUSMA n'est pas un manque d'effectifs, mais de mandats à aller au contact des groupes terroristes. Ainsi, selon ces analystes, la menace de sanctions contre les fauteurs de troubles au processus de paix n'est pas un fait nouveau, mais elle n'a jamais été appliquée. Maître Abdrahaman Ben Touré est avocat au barreau malien chargé de cours à l'université de Bamako. Il est joint au téléphone par Issa Fakabassissoko.
On envoie 2500 nouveaux soldats, mais si le mandat ne permet pas d'aller dans la lutte contre le terrorisme, ces 2000 soldats ne peuvent travailler que dans le cadre du mandat. Et ce mandat, pour moi, n'est pas assez clair en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et le djihadisme. Donc on aura un effectif supplémentaire, mais dans les limites du mandat, comme le dernier mandat, le 22-27 de 2015. Donc c'est moins un problème d'effectif qu'un problème de mandat.
L'une des composantes de cette nouvelle résolution, c'est aussi des sanctions ciblées contre ceux considérés comme des fauteurs de troubles. Est-ce qu'il faut prendre ces menaces-là au sérieux?
Déjà, l'expression fauteur de troubles, c'est assez vague. Fauteur de troubles, ça peut être les groupes armés. Fauteur de troubles, ça peut être des bandits, ça peut être des djihadistes. On ne peut pas prendre une sanction contre un djihadiste parce que les djihadistes, ils viennent pour se sacrifier. Maintenant, les groupes armés et les bandits aussi qui sont là-bas, je pense que la sanction s'adresse à ces deux dernières catégories de groupes. En ce qui concerne les groupes armés, ce n'est pas la première fois qu'on parle de sanctions. Et depuis qu'on a commencé le processus, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de fautes qui ont été commises par les groupes armés, mais ils n'ont jamais été sanctionnés.
et réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook et le compte Twitter du Studio Tamani. Le mouvement patriotique pour le Mali a organisé hier une rencontre d'échange avec des représentants de la société civile sur le suivi de la mise en œuvre de l'accord. Les échanges ont notamment porté sur l'élaboration d'un chronogramme des activités d'observation, de veille, d'alerte et les outils de monitoring de l'accord. Le mouvement de la société civile exige l'organisation d'une conférence d'entente nationale prévue dans l'accord d'Alger pour une sortie de crise. Cette rencontre qui prend fin aujourd'hui est financée par NDI et USAID. Professeur Abdoulaye Niang est chercheur au Centre Séné et membre du mouvement patriotique pour le Mali. Il est au micro de Imirana Kilumeiga.
Ça se situe dans le cadre de l'article 51 de l'accord pour la paix et la réconciliation. Donc l'article 51 demandait à la société civile d'assurer un certain suivi. Tant qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi, tant qu'il n'y a pas de richesse, tant qu'il n'y a pas de prospérité pour la population, ce groupe-là est toujours ignoré. Et maintenant, la société civile s'active maintenant à travers ce forum pour jouer son rôle et définir à l'article 51. S'il y a une déviation comportementale notée au niveau du gouvernement, au niveau de la CEMA et de la plateforme, seule la société civile a le pouvoir de les interpeller et de leur dire de se comporter conformément à ce qui a été signé, conformément aux intérêts supérieurs de la nation, conformément aux intérêts qui permettent de maintenir l'intégrité de ce pays. Donc nous avons un rôle de gendarme, nous avons un rôle de veille et nous avons un rôle d'observation et ce rôle-là doit être joué et ça doit être respecté.
Une marche pacifique contre l'usage et le trafic de drogue au Mali a été organisée mardi à Bamako. Initiée par des associations de jeunes et de femmes, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités marquant la célébration du 27 juin, journée mondiale de lutte contre la drogue. Selon les organisateurs, cette campagne vise à mieux sensibiliser et informer les populations dans la quête d'une stratégie de prévention dans la lutte contre les stupéfiants. Lieutenant-colonel Adam Antunkara est directeur de l'Office central de lutte contre les stupéfiants. Il est au micro de Samba Doumbia.
La symbolique de cette marche est juste montrer la mobilisation des femmes et l'intérêt qu'elles portent au thème qui a été choisi. Et davantage démontrer aussi leur engagement et leur détermination à lutter contre le trafic de stupéfiants. Cette marche a pour but aussi de sensibiliser, d'attirer l'attention de tous ceux qui circulent à travers Bamako et pour qu'ils puissent comprendre qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui est en marche dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants. Nous avons d'ores et déjà du personnel, nous avons du matériel et nous avons un certain nombre de ressources qui nous permettent pour le moment de mener la lutte sur le plan national. Comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, nous avons saisi à peu près 2 tonnes 700 de cannabis. Aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur aussi le trafic de cocaïne, qui sont des drogues à forte dépendance et c'est un peu les priorités que nous nous sommes fixées.
Comment mieux lutter contre l'extrémisme violent au Mali? La question est au centre d'une rencontre nationale qui a débuté avant-hier à Bamako. Elle regroupe des leaders religieux, des représentants d'organisations de la société civile, des autorités politiques et administratives, des partenaires techniques et financiers. Pendant 3 jours, les participants venus de toutes les régions du Mali vont réfléchir sur les moyens de lutte contre la radicalisation des jeunes et l'extrémisme violent. Pour les participants, la meilleure approche consiste à offrir des opportunités de développement économique aux jeunes. Ina Lassana Bagayogo, chargée de programme à l'USAID, est au micro de Omar Waigalo.
Il faut déjà commencer par cette première étape, c'est-à-dire vraiment avoir une stratégie qui va mettre en place un cadre d'action coordonné entre les différents partenaires, mais aussi qui définit la vision du gouvernement en termes de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Au-delà de cette stratégie-là, bien sûr, il ne faut pas rester à un beau document de stratégie. Il faudra que la stratégie soit associée d'un plan d'action qui définit exactement quelles sont les actions concrètes qu'il faut pour lutter contre le phénomène. Mais surtout, il faut travailler avec les couches vulnérables parce que c'est les couches les plus sensibles à ce phénomène-là. Éviter la marginalisation de ces couches, offrir des opportunités de développement économique à ces couches vulnérables qui sont essentiellement les jeunes et qui sont le plus souvent sans manque d'opportunités. Nous espérons avoir des recommandations qui sont assez spécifiques vis-à-vis du gouvernement par rapport à sa politique. Des recommandations vis-à-vis aussi de l'ensemble des acteurs, par exemple la société civile. Quel peut être le rôle de la société civile pour lutter contre le phénomène ?
Les examens de fin d'année 2016 se sont déroulés dans de bonnes conditions, sans fraude ni fuite des sujets. Le constat a été établi par les autorités scolaires à la faveur d'une rencontre bilan tenue mardi avec les journalistes. Selon les responsables du ministère de l'Éducation, ce bilan positif est le fruit d'un travail de sensibilisation mené dans les académies auprès des élèves et parents sur les conséquences de la fraude et de la fuite des sujets. Selon les acteurs de l'école, ce cap doit être maintenu pour les prochaines années. Mamadou Koulibaly est directeur adjoint des examens et concours. Il est au micro de Samba Doumbia.
Nous avons beaucoup sensibilisé parce que nous avons fait le tour pratiquement de toutes les académies, des rencontres avec tous les partenaires de l'école, les acteurs de l'école. Et nous avons expliqué quels sont les inconvénients de la fraude et de la fuite des sujets. Et ce qui a fait qu'ils ont vraiment voulu nous accompagner parce qu'ils ont compris que c'était un truc noble. Donc ils ont agi dans ce sens-là. Tout le monde avait pris l'engagement de faire la restitution des différentes activités. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi nous avons résolu ce résultat. Nous allons terminer ces examens tout de suite. On va faire un bilan. Et en fonction de ce bilan, on va demander aux différentes académies de faire des séances de sensibilisation. Toujours continuer à sensibiliser parce que les gens, on doit se dire qu'il ne sert à rien aujourd'hui de faire la fraude parce qu'un enfant qui n'a aucun niveau, je ne sais pas ce qu'il va faire dans la vie.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Écho de nos régions, les habitants du village de Marila à Kay ont reçu hier un nouveau forage. L'ouvrage est financé par l'agence micro-projet de l'association intercommunale des migrants de Djambougou et Siro Djamounou. Le coût de sa réalisation s'élève à 7 millions de francs CFA. Il est destiné à l'approvisionnement en eau potable pour la commune. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais ne décrochez pas car tout à l'heure vous aurez la version en Bambara. Money.